Elle cligne des yeux, c'est la lumière, c'est le soleil qui l'éclaire, c'est le grand air dans ses cheveux. Elle cligne des yeux, elle s'émerveille, accueille le vent, cet inconnu, première fois qu'elle est tête nue. Elle cligne des yeux, vient de débarquer, maternité de Mantes-la-Jolie et la cité du Val-Fouré. Comme elle, ils étaient des milliers à naître là, pour y rester. À son père, on promet la lune, pour lui, elle veut la décrocher. Elle cligne des yeux, elle réfléchit, veut voir plus loin que les murs gris ou blancs, comme ça, elle les préfère, ça fait flamber l'imaginaire, pas de frontières, pas de posters, de graffiti, pas de barrières. L'adolescence en bandoulière, elle cligne des yeux, c'est la colère, dedans ça siffle, dedans ça cogne, les lascars s'en prennent à son père, chez elle ça fuse comme l'éclair, elle raye leur voiture, va te faire, mais chut, ça y est, c'est arrivé. Elle cligne des yeux, cette fois, elle sait, elle aime, elle vole et elle est folle de bonheur, ça s'appelle aimer, son amoureux un jour saura et un jour il le lui rendra, bah oui, son amoureux, c'est Dieu. Alors à lui, alléluia.
France Inter. Julia Foyce, unique en son genre.
Mais cette voix et ce regard incroyable, nous sommes le 3 février 2018 sur le plateau de The Voice, l'émission de TF1. Le public est subjugué, le jury est subjugué, les téléspectateurs aussi dans un bel ensemble, subjugués par la voix, par le regard et par le turban que porte cette jeune femme, Menel Iptisen. Alors vite, on veut voir qui c'est, vite, on veut savoir d'où elle chante sous ce turban et d'où ils sortent ces tweets écrits juste après les attentats de Nice, tweets au parfum un peu complotiste. Alors évidemment, la polémique flambe tout autour du turban et la candidate vacille, elle s'excuse, mais rien n'y fait, elle quitte le télécrochet. Mariam Tiganimine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes autrice, doctorante en sociologie au CNRS et au Conservatoire National des Arts et Métiers, mais également spectatrice de The Voice. Menel, vous l'avez vue, vous l'avez entendue chanter, vous la citez dans votre dernier essai. Pourquoi ? Elle incarne quoi ?
Déjà, merci de m'avoir invitée, je suis ravie d'être ici.
Et on est ravis de vous recevoir.
Alors Menel, il s'avère en fait que quelques mois avant son passage en fait, sur The Voice, j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Et donc c'est une jeune femme... toute gentille, hyper souriante, radieuse. Et en fait, à l'époque, elle portait encore un foulard un peu plus fermé, donc pas le turban qu'on a pu voir à la télé. Et quand je l'ai vue à la télé, et je me suis dit, ah, c'est, je connais ce processus, je connais cette manière de porter le voile, c'est ce qui m'est arrivé. Donc quand moi, je suis passée en fait du foulard un peu traditionnel, un peu fermé, au turban, cou dégagé, etc. Et je me suis dit, bah, en fait, elle est en train de faire ce qu'elle aime. Elle est en train de s'émanciper, en fait.
Et donc, vous vous dites que les commentaires sur elle sont totalement à côté de la plaque, qu'on ne comprend pas ?
Alors, ça, c'est quand je la vois s'afficher, en fait, sur mon écran. Et puis, effectivement, je découvre, en fait, les polémiques. Et je me dis, bah, en fait, ils vont juste la pourrir, déjà. Et ensuite, l'empêcher d'aller un peu plus loin. Parce qu'elle a finalement, elle a fini par retirer son voile, donc c'était son choix, et je pense que c'est un choix qu'elle a retardé du fait de toute la haine qu'elle a pu recevoir, donc de la part de personnes qui, donc certaines étaient sincèrement, j'imagine, sincèrement offusquées de ses commentaires, mais elle a essayé de s'expliquer en disant voilà qu'elle était jeune, que c'était très stupide, effectivement ses commentaires étaient extrêmement stupides, mais moi je pense qu'on a on a le droit d'avancer tant qu'on on reconnaît en fait avoir fait une erreur, etc.
Tout ou pas tout, il y avait quelque chose qui se crispait.
Et d'autres clairement, en fait, étaient animés non pas en fait par une quête de compréhension ou de vérité, ouais. mais par en fait de l'islamophobie pure et dure. Et ce qui m'attriste beaucoup avec Menel, c'est que celles et ceux qui l'ont défendue, lorsqu'elle était attaquée, donc pas mal d'entre eux sont devenus ses bourreaux quand elle a décidé de retirer son voile. Parce qu'elle a subi c'est-à-dire une nouvelle fois.
Coincée, quoi.
Ouais, elle a subi ouais. une nouvelle fois en fait une campagne de dénigrement en ligne en disant ah bah voilà, elle leur donne ce qu'ils veulent, qui ils, on sait pas.
On sait pas.
En gros, c'est une vendue quoi. Et elle a fini par le retirer. Elle a fini par leur donner en fait raison.
Le titre de votre dernier essai sonne comme un appel à Menel et à tant d'autres Menel. Dévoilons-nous. Ça, c'est le titre. Vous y racontez comment et pourquoi vous avez décidé de retirer votre voile 18 ans après l'avoir posé sur vos cheveux. Vous appelez toutes les femmes musulmanes à faire de même?
Non, en fait, pour raconter un petit peu la genèse de ce livre, c'est que j'étais entre guillemets connue de pas mal de françaises de culture musulmane parce que j'avais lancé en fait en 2007 un webzine qui s'appelait Hijab in the City, donc qui était le premier magazine en ligne qui donnait la parole aux femmes françaises de culture musulmane, qui réunissait un peu plus de 300 000 visiteurs uniques par mois. C'est en plus les débuts en fait des magazines en ligne, etc. Et en fait, beaucoup de femmes m'ont connue avec un voile. J'étais pas du tout prosélyte, donc j'avais cofondé avec ma sœur, on le portait toutes les deux. Voilà, on parlait de plein de sujets, de société, de mode, etc., etc. Et à un moment donné, j'étais plus hijab, quoi. Donc j'ai décidé de le retirer. Et le site a fini par être fermé. Et quelques années après, donc j'ai eu l'opportunité de publier un premier essai. Et il s'avère que ma photo a fini sur la couverture de cet essai. C'était pas prévu. À la base, il devait y avoir une illustration. Mais bon, bref, il y a eu un petit problème éditorial. Et donc, ma tête a fini sur cette couve. Et ma tête découverte, en plus avec des cheveux très courts. Et là, en fait, j'avais un petit peu coupé les réseaux sociaux. J'avais posté une fois, en fait, une photo de moi, mais j'avais mis un chapeau. Enfin bref, on voyait pas trop. Et là, en fait, j'ai reçu des dizaines, puis des centaines, en fait, de messages de femmes, en fait, qui étaient comme moi de culture musulmane, qui le portaient ou qui songeaient à le porter, et qui en fait avaient énormément de questions, qui se posaient la question de savoir si elles le gardaient. Petit à petit, moi, j'ai assumé aussi le fait de ne plus pratiquer la religion, de ne plus croire. J'ai assumé le fait d'être agnostique, et je l'ai pas dit en fait pour faire du prosélytisme. C'est juste que il me semblait, honnête de dire d'où je parlais, quoi.
D'où? Cet essai qui s'adresse aussi bien à ces femmes-là qui se posent des questions qu'à nous tous autour, à qui vous demandez, je résume, on va pouvoir développer un peu de flexibilité intellectuelle et un peu de respect pour l'humanité de celles qui choisissent ou pas de se voiler. Sous le voile, il y a quelqu'un, dites-vous avec ou sans voile, il y a quelqu'un avec ses failles, avec ses forces, avec ses doutes et ses contradictions. Vous, quand vous vous voyez, vous, dans ce miroir, quand vous vous regardez tête nue, vous vous dites quoi ?
Écoutez, je vous avoue que moi déjà, je suis pas quelqu'un qui me regarde beaucoup dans le miroir. J'ai pas de complexe particulier, mais c'est juste que bon, j'ai aussi en fait, enfin quand j'étais croyante, j'étais vraiment croyante quoi. Donc j'ai épousé une forme de d'attitude pudique, austère, qui m'a apporté parfois certaines choses, enfin plutôt bonnes, d'autres fois plutôt problématiques, ne serait-ce que voilà sur la question du rapport à mon corps.
Alors vous portez les cheveux très courts, ça vous avez décidé de les couper très courts juste avant d'enlever le voile définitivement. Ça fait partie de votre identité. C'est dans le même mouvement.
Mais en fait j'ai les cheveux très frisés et j'ai porté le voile très tôt. C'est vraiment à l'adolescence en fait qu'on arrive à, enfin voilà, qu'on apprend à se coiffer. Et moi je l'ai pas fait parce que mes cheveux étaient tout le temps couverts. Et même bon, à la maison ils étaient pas couverts, mais bon voilà, j'en avais rien à faire. Et puis bon, il y avait pas trop de coquetterie autour de moi. Toutes mes sœurs le portent encore. Ma mère le paix à son âme le portait aussi. Ouais, il y avait une sorte de parcimonie dans l'apparence, langagière. Enfin voilà, on faisait pas semblant quoi.
Donc on va faire dans l'efficace, mais ça vous va très
c'est
bien.
Vrai. Merci beaucoup.
Qu'est-ce qui fait mauvais genre chez vous? À part que vous clignez tout le temps des yeux, nous avez-vous dit, et je guette le clignement d'yeux, mais je ne l'ai pas encore vu.
J'ai essayé de me contrôler, évidemment.
Je vois ça.
Puis j'ai bien humidifié mes yeux avant de venir. Qu'est-ce qui fait mauvais genre? Moi, je pense qu'on est toujours le plouc de quelqu'un, hein. Je sais pas, hein, mais je...
Alors, c'est moins le mauvais goût qu'un petit goût de la provocation, quelque chose que vous faites et que vous cultivez. Vous savez que ça se fait pas, mais en fait, vous aimez ça.
Comme mettre des chaussettes avec des claquettes.
Vous faites ça?
Ah, j'adore.
Je regarde.
Non, j'ai pas fait.
Non, c'est bon.
J'ai hésité.
Là, on est bon.
J'étais à deux doigts. Mais dans certains pays, c'est très à la mode. Donc voilà.
Vous nous parlerez de cet étrange paradoxe que ce voile destiné à vous rendre invisible, mais qui au fond aujourd'hui fait qu'on ne voit plus que lui. Paradoxe qui vous a construite, Mariam Tighani-Mine, et puis fait douter, voire vaciller avant de renaître à vous-même. Ça vous a pris, dites-vous, 5 minutes pour le mettre et 18 ans pour l'enlever. Trajectoire intime, chemin intérieur, autant que politique, au fond, quand vos questions à vous nous interrogent tous.
14 ans, première fois je m'en rappelle. J'ai des crampes au ventre, une humeur de merde. Tous les mois c'est pareil, il y a les jours sans, les nuits sans sommeil. C'est où on apprend qu'on va vivre avec les mauvaises nouvelles. Ouh, on s'habitue toujours à tout, même aux peines. Peut-être à perdre ce qu'on aime. 17 ans, première rupture. Même s'il était temps, mon premier amour, c'est fini, c'est dur. Et d'autres soucis, mais tout finit par passer. Ainsi va la vie, même quand mon cœur s'était déchiré. Quand s'arrête un cœur, moi j'ai grandi. Mais malgré le temps passé, jamais je n'oublie ceux qui sans prévenir nous avaient quittés. Oh, on s'habitue toujours à tout.
Angèle sur France Inter avec ce titre « On s'habitue » qui résonne drôlement ce soir. Oui, est-ce qu'on s'habitue à se voiler la tête? Est-ce qu'on s'habitue ensuite à l'air dans ses cheveux? Est-ce qu'on s'habitue à une certaine violence? Est-ce que notre seuil de tolérance et puis celui d'intolérance s'est émoussé ces dernières années? Mariam Tighani-Mine, votre essai « Dévoilons-nous » porte ce sous-titre « Manifeste antiraciste et féministe » parce qu'avec vous, les deux vont de pair. C'est vous qui nous emmenez ce soir sur cette drôle de planète du genre humain peuplée d'hommes et de femmes, voilée du cœur ou voilée de la tête pour mieux, peut-être un jour, se dévoiler.
Unique en son genre.
Dès le début de votre livre, vous vous définissez comme française, d'origine africaine, de culture musulmane et agnostique, et très vite, vous précisez « je n'ai pas choisi d'être française ». Ça change quoi, le fait de ne pas l'avoir choisi ?
Je le précise parce que, en fait, moi, j'aborde le nationalisme, etc. Voilà, j'ai rien choisi de tout ce qui a pu m'arriver avant que j'arrive au monde. Puis en fait, j'ai appris petit à petit à connaître ce pays qui est le mien. Donc, mon père et on a fait venir mon père en fait dans les années 60 pour qu'il travaille dans les mines du Nord. Ma mère l'a rejoint quelques années plus tard dans le cadre du regroupement familial. Moi, je suis contente en fait d'être née en France parce que c'est une démocratie. C'est donc imparfaite, hein, évidemment, mais quand je compare à ce qu'est le pays d'origine de mes parents, donc le Maroc, encore aujourd'hui, en fait, en 2022, je suis bien heureuse de pas être née dans un pays qui est pauvre, inégalitaire, où on emprisonne des journalistes. Des militants des droits de l'homme.
Et le fait de ne pas l'avoir choisi, c'est donc, ça veut dire coup de chance, mais donc il n'y a ni honte ni fierté, c'est ça ?
Exactement. Après, ouais. Il peut y avoir, enfin, il y a certains moments de l'histoire française qui peuvent nous rendre fiers, quoi. Enfin, quand je regarde la Commune, le Conseil de la Résistance, la Sécurité sociale, enfin, il y a des choses et faut vraiment voyager pour s'en apercevoir. Il y a quelques temps, j'étais en séjour de recherche aux États-Unis. J'avais déjà visité ce pays quelques années auparavant pour un autre séjour. On est bien content d'être français quand on est à l'étranger.
Alors, ce livre, c'est aussi revenir sur votre histoire à vous, sur celle de votre père, que vous creusez parallèlement pour un film que vous coécrivez avec Ariane Chemin et que vous co-réalisez avec Frédéric Lafont. Il sera diffusé sur Arte à la rentrée. Il s'appelle La vie devant nous.
Pris-ni de Boitner.
Mémoire de nos pères. Descendre et mourir à la mine. Remonter et vivre à la mine.
Compter les nuits froides dans la baraque.
Envoyer l'argent du charbon. Aux parents et aux promises, rester dans le jardin aride où les hivers sont doux.
C'est vous, hein, qu'on entend en voix off avec votre frère, c'est ça, en duo.
C'est ça, ouais. Quand j'articule bien, c'est voilà ce que ça donne.
Votre père vous racontait son histoire, il vous parlait du Maroc ?
Non, il a fallu que je gratte. Donc j'ai commencé à gratter en 2014.
Ah oui.
Je suis la benjamine, hein, d'une famille, d'une fratrie de 6 enfants. Et en fait, mes parents n'ont jamais considéré intéressant de raconter leur histoire, parce que c'est un truc qu'on retrouve chez toutes les petites gens, en fait. C'est que notre vie, elle est banale, en fait. Ouais. Qui ça peut intéresser? Et moi, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à leur histoire. Donc déjà parce que je regardais de plus en plus ce qui pouvait se passer au Maroc. Et aussi, donc, j'ai une formation en sociologie. Donc là, je fais une thèse, mais j'avais arrêté avant de commencer une thèse. Et je m'intéressais en fait à la sociologie du travail. Et il y avait beaucoup de textes sur le travail à la chaîne, sur la condition d'ouvrier, quelques éléments sur les immigrés, en fait, les travailleurs immigrés, ouvriers immigrés. Et j'étais toujours frustrée, en fait, de pas trouver de choses qui pouvaient ressembler à mon histoire. Ouais. Et donc, je suis partie voir mes parents et je leur ai dit, en fait, tous les vendredis soirs, on va discuter. Et voilà.
Alors, la France, pour ceux qu'on appelle à l'époque les travailleurs immigrés, c'est surtout la périphérie des grandes villes. On est tout fiers, hein. En France, on a rasé les bidonvilles à la place. On poussait des immeubles à toucher le ciel ou presque, comme ici, au Val-Fouré, quartier de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, l'endroit où vous avez grandi.
Ouais. Voici une réalisation spectaculaire qui prélude à l'extension de la ville conçue dans un esprit futuriste et grandiose, le Val-Fouré. Véritable petite ville qui aura en tout 7000 logements HLM, très moderne, d'une architecture de bon goût et d'une organisation intérieure exceptionnelle. Avec des espaces verts, des jeux d'enfants et des parkings.
Nous entrons dans cette vaste zone d'habitation par le quartier récemment occupé, le Val-Fouré, dont les travaux ont été lancés en 1963. La vie y a déjà pris naissance. Nous longeons des HLM. Admirez combien la végétation est dense et vigoureuse.
Quel souvenir est-ce que vous gardez de ce décor-là ? On vit dans quelle ambiance, quelle atmosphère ?
Quand j'étais toute petite, moi j'étais très protégée. Moi, je savais pas qu'on était pauvres, je savais pas qu'on était des prolos, et je savais pas qu'on était dans un entre-soi ethnique, social, complet. L'entre-soi, c'est jamais bon. Il y avait en fait aussi une architecture très anxiogène, parce qu'effectivement les promesses en fait des grands ensembles à la base c'était potentiellement en fait du mélange social,
mais ça n'a jamais été
ethnique.
Le cas.
Ben moi en tout cas à ma période, la période de mon frère a 15 ans de plus que moi, lui il a connu les Français de souche entre guillemets, les descendants d'Espagnols, de Portugais. Ouais. Moi il y avait des Noirs et des Arabes. Et pour moi en fait c'était normal. Et donc il a fallu qu'à 18 ans j'aille faire des études supérieures et que je prenne le train et que j'aille à Paris, enfin d'abord à l'université de Nanterre, donc déjà
vous
Nanterre.
Vous vous rendez compte qu'il y a un monde extérieur, c'est ça, qu'il y a peut-être d'autres façons de vivre, d'autres choix de vie, d'autres valeurs, c'est ça que vous voulez dire ?
Et des gens en fait différents et puis ouais. Des gens en fait qui socialement sont pas comme vous, dont les parents ont été à l'école, ont fait des études supérieures, etc., etc. Et encore ça va, parce qu'à Mantes, on est aux portes de la Normandie. On est vraiment entre Paris et Rouen. Donc il y a de la verdure. Il y a des arbres, il y a des petits bois, il y a la Seine. Mais il y a une architecture qui est très anxiogène. Ouais. Et il y a des problèmes. Moi, le dernier souvenir que j'ai, quand on déménage de la cité et que mes parents ont accès à la propriété grâce à mon frère, qui a accepté de s'endetter avec eux à 24 ans. Moi, je connais pas beaucoup de gens. C'est pour ça que j'en suis éternellement reconnaissante. On part, en fait, pour aller dans une ville à côté, toujours prolétaire, mais un peu moins problématique. Et en fait, le dernier souvenir que j'ai, c'est la construction d'un mur. dans le hall pour en fait freiner le trafic de drogue, quoi. Et voilà. Et donc bon, après moi aujourd'hui, je suis quelqu'un de d'épanoui. Quand je réfléchis à tout ça et quand j'y retourne, parce que j'y retourne régulièrement, bah j'ai toujours un pincement au cœur, parce que moi je suis humaniste, hein. Moi je veux le bien de mes prochains.
Dans ce contexte-là, quelle éducation est-ce que vous recevez à la maison? Sur quelles valeurs est-ce que vous êtes construite?
Bah on a une éducation plutôt traditionnelle. Moi j'avais en gros trois instances de socialisation. J'avais la maison, j'avais l'école et j'avais la mosquée.
Ouais.
Et donc en fait la mosquée à Mantes-la-Jolie, c'est une institution. C'est une des premières mosquées cathédrales de France. Donc c'est mosquée avec des minarets. Donc il y avait du bon comme du mauvais. Alors c'est très dangereux à chaque fois d'en parler parce qu'on a toujours peur de se faire récupérer. Mais en même temps, c'est important d'en parler parce qu'il y a, il y a des sujets qui doivent être abordés de manière posée, quoi. Et la mosquée, par exemple, je sais que la quasi-totalité des jeunes hommes, par exemple, qui fréquentaient la mosquée, n'a pas mis les pieds en prison ou n'est pas parti au djihad. Contrairement, en fait, à d'autres voisins qui, sont retrouvés à faire des bêtises, quoi. Pour diverses raisons, et la mosquée protégée, parce qu'en fait c'était une pratique religieuse à ciel ouvert, sous le regard des autorités. Au sein de la mosquée, on nous encourageait à être bonnes à l'école, à travailler. Et donc beaucoup de filles qui ont fréquenté la mosquée ont fait des études supérieures.
Et qu'est-ce qu'on vous dit du voile?
Bah, le voile, on nous dit que ça fait partie en fait de la pudeur de la musulmane. C'est pour se rapprocher de Dieu. On nous parle jamais d'un homme hypothétique, du père, du frère, etc. Vraiment pas. C'est une obligation divine, une manière en fait de se rapprocher de son Seigneur. Et ça fait partie de tout un ensemble. C'est pas uniquement se couvrir à la tête. C'est le comportement. C'est le fait d'apprendre aussi. Moi, le Coran, vous savez, il y a 60 chapitres. Ahzab, bah, moi, j'en connais 40, quoi. Donc, je faisais pas exprès. J'avais une vraie pratique assidue et sincère.
Donc, ça veut dire que quand, à 10 ans, vous voilez, c'est à la fois un choix. Et pas totalement un choix non plus.
Ben, on me dit pas, Mariam, tu vas te voiler.
Ouais.
Moi, autour de moi, j'ai des femmes exemplaires que j'adore, qui le portent. Bah, je le porte, quoi. Pour moi, c'est genre normal que de me soumettre, en gros, à cette pratique. Mais personne n'est venu me dire, Mariam, il est temps de porter ton voile.
Votre père, il en dit quoi?
Mon père, il voulait pas de problème. En fait, mon père, le pauvre, il a hérité, vous savez, il a quitté le Maroc en 63. Il a quitté un Maroc autoritaire et qui est toujours autoritaire aujourd'hui. Et c'était un Maroc, en fait, où on l'a ramené pas, quoi. Et mon père, il voulait pas de problème. Il voulait vivre paisiblement.
Donc pas de voile.
En France, il travaille. Non, il a jamais dit pas de voile, mais par contre, quand il y avait des problèmes à l'école, là, il disait, retirez-moi ça. Oui. Moi, je veux pas de soucis. Parce que Mantes-la-Jolie, c'est très particulier. Quand je parlais tout à l'heure de vivre sa religion sous le regard des autorités, en fait, la religion est devenue un instrument en fait politique. Le clientélisme s'est beaucoup développé. Nous, nos papas, à la base, ils voulaient quoi? Ils voulaient une salle de prière, avoir encore un lien avec le pays, avec les traditions, avec la religion. Pour un projet là de livre, je me suis replongée dans des archives, en fait. Je regardais familiales, mais aussi publiques, de comment étaient nos mamans quand elles sont arrivées. Et en fait, elles portaient pas le voile comme elles ont fini par le porter. Elles étaient soit tête nue, soit elles avaient un petit voile comme on porte dans les villages amazirs du sud du Maroc, berbères, comme on dit, de manière impropre. Et en fait, il y a vraiment eu une lecture du religieux qui est devenue de plus en plus littéraliste et surtout qui a importé pas mal de choses, en fait, du Moyen-Orient.
Alors, il faut situer quand même le contexte. L'époque est très particulière et ce, depuis la fameuse affaire des foulards de Creil. En 89, trois adolescentes sont exclues de leur collège pour avoir refusé de se dévoiler. Dans les médias comme dans les discussions de famille, on est en boucle là-dessus. 5 octobre, Journal de France 2.
L'objet du délit, le foulard. Plus précisément, le zif marocain que portent Fatima et Leïla selon leurs convictions musulmanes.
Je crains en Dieu. Je crains de personne, sauf le Dieu. Je porterai toujours mon foulard jusqu'à ma mort.
Fatima et Leïla ont 14 et 13 ans. Elles étudient le Coran chez elles, au tableau noir, depuis l'âge de 3 ans. Elles font leurs 5 prières par jour, mais leur but dans la vie, c'est aussi de réussir à l'école.
Moi, je veux continuer mes études, je veux travailler.
Fatima et Leïla ne sont pas exclues du collège Georges Avez, mais l'accès leur en est refusé tant qu'elles porteront le foulard pendant les cours. Principe de laïcité oblige.
Le problème n'est pas des croyances, le problème est de la manifestation extérieure de cette croyance dans l'enceinte des locaux scolaires et notamment en classe.
Le collège, placé en zone d'éducation prioritaire, compte 850 élèves de 25 nationalités différentes, dont 500 musulmans. Le problème, c'est de vivre en collectivité et conformément à la notion de neutralité politique ou religieuse.
Encore ce foulard, je me demande moi s'il gêne quelqu'un. Est-ce que ce foulard est gêne quelqu'un?
Un père qui lui aussi parle de tolérance et nie faire pression sur ses filles.
Moi, si vous voulez, c'est pas mon problème. Si mes filles ils veulent venir aujourd'hui sans le foulard, moi, je n'ai aucun mot à dire.
Vous ne les forcez pas à porter le foulard.
Absolument pas.
Qu'est-ce qui vous vient comme ça d'emblée à écouter ce reportage, Mariam Tighanimi?
Bah, je suis un peu triste, quoi. De ce qui a pu arriver à ces jeunes filles qui aujourd'hui sont des femmes. J'avais regardé d'autres archives,
ouais.
Et même je sais plus quelle chaîne télé qui avait retrouvé une des concernées. Bah c'était criminel en fait d'exposer des ados comme ça en fait à la presse, à un débat national houleux. J'ai un peu vécu ça en fait en 2004.
Alors on le précise. Oui. Pour replacer encore les choses dans leur contexte, hein, à partir de cette affaire-là, c'est le flou artistique pendant 5 ans. C'est Lionel Jospin qui va se remettre au proviseur, qui est ministre de l'Éducation nationale, qui se remet au proviseur de chaque établissement scolaire, qui dit voilà, s'il y a menace à l'ordre public, vous excluez. Sinon, vous laissez faire. Donc, évidemment, ça va être du cas par cas. Et c'est en 2004 que Jacques Chirac décide d'uniformiser tout ça et fait cette loi qui interdit le port de signes ostensibles religieux dans les établissements scolaires. Entre-temps, vous, il vous est arrivé la même chose. Vous êtes en première au lycée Saint-Exupéry,
oui,
à Mantes-la-Jolie.
Tout à fait.
Vous portez le voile. À ce moment-là,
à l'école, je porte le voile parce que je porte depuis mes 10 ans.
Ouais.
Mais en fait, à l'école, je portais une sorte de bandana.
Un bandeau, hein, c'est ça.
Ouais,
voilà.
Bandeau,
ouais.
Voilà. Et effectivement, ben, on me dit, c'est un substitut de signe religieux. Bah, évidemment que c'est un substitut. Enfin, oui. C'est pas un substitut de signe religieux. Pour moi, c'était surtout une prime psychologique me permettant de me dire, voilà.
Je suis quand même un peu voilée.
Je suis un peu
voilée
et j'avais une capuche, etc. Et on était plusieurs dans ce cas. Et effectivement, donc on parle à l'échelle nationale de légiférer, et donc avec la fameuse commission Stasi, etc., etc. Donc moi aujourd'hui, avec mes yeux d'adulte, mon regard voilà de chercheuse, le fait de réfléchir à toutes ces questions, alors quelque chose de très clair, c'est que je trouve hyper problématique donc de s'attaquer à des adolescentes, à des mineurs, et d'en faire en fait des porte-étendards politiques, religieux, alors que voilà, il suffit d'écouter le discours de ces jeunes filles, et j'aurais pu avoir le même en fait à leur âge. Ben voilà, il n'est pas très construit. En même temps, on entend le papa. Et pour moi, il est sincère quand il dit « Moi, mes filles, si elles veulent le retirer, elles le retirent, etc. » Parce que j'ai vu mon père, j'ai vu le père d'autres copines, de voisines, etc. qui étaient vraiment dans cette situation-là. Et en même temps, se pose la question de le voile des mineurs. Moi, aujourd'hui, je le dis, je trouve que le voile des mineurs est problématique.
Alors,
par contre, quand une femme adulte vous dit qu'elle le porte par choix...
Il faut pouvoir l'entendre.
Il faut la laisser tranquille même, et pas lui interdire en fait l'accès à des lieux de savoir, à des lieux de loisirs.
Ça, alors on va y revenir, ouais, à cet aspect-là. Simplement pour reprendre le fil de votre histoire à vous, à ce moment-là vous avez ce bandeau. Et il se passe quoi?
Ben on me dit oui, c'est un substitut religieux. Je dis ben non, en fait c'est juste un bandeau. Je l'ai acheté chez H&M. Je ramène le ticket de caisse parce que j'étais un peu insolente. Ouais. Et on me dit non, voilà. Je dis mais qu'est-ce qui vous dit que Cindy qui a aussi un bandeau? En fait c'est pas un bandeau musulman. On me dit non, ben parce que Cindy elle s'appelle Cindy. Je vois, mais ça c'est de la discrimination. Ouais. Et donc bref, en fait on est finalement quatre à pas vouloir retirer ce petit bandeau. On peut pas nous renvoyer parce qu'on porte pas de signe religieux ostentatoire. Ouais. Et donc, en fait, on essaie de nous décourager en nous excluant. Enfin, on est au sein de l'établissement, mais on n'est pas dans nos salles de cours.
On vous demande de pointer.
On nous demande
de pas
pointer.
En cours.
Exactement.
Ouais.
Et en fait, bah, on lâche pas l'affaire. Bon, entre-temps, on fait des... Enfin, moi, à l'époque, je connaissais pas ce terme. On fait des dépressions, hein, on perd du poids. En fait, on est des ados, quoi. Nos parents sont sous pression. Bah, mon père reçoit... Parce que, évidemment, parce qu'on est là à dénoncer le patriarcat et la pression des pères. Mais à qui on s'adresse? On s'adresse au père. On s'adresse pas aux parents.
Bien sûr.
Et on appelle mon père pour le faire peur et lui dire « Oui, votre fille, elle fait partie des islamistes des Yvelines, quoi. » Et c'est un coup de fil d'un fonctionnaire de la préfecture. Et donc, moi, mon père me dit « Mais ça va pas, faut retirer ça. Faut aller à l'école, moi je veux pas de problème à la maison, blablabla. » Et donc moi je dis non, moi je veux le garder. Et de toute façon je porte pas mon voile en fait, je porte un bandana. Et on a la chance d'avoir le soutien d'enseignants, donc trois enseignants extraordinaires, dont ma prof d'histoire, Nathalie Coste, qui en fait disent « Écoutez, nous le foulard on n'en pense pas moins en fait, mais on a affaire à des ados. Mmh. » Enfin mieux vaut qu'elles soient scolarisées. Plutôt que déscolarisées, parce qu'on a connu des filles déscolarisées qui, en plus, se sont enfoncées en fait, dans une pratique plutôt rigoriste de la religion. Moi, je généralise pas, mais je parle du cas
c'est un risque,
que moi j'ai
cas.
Pu voir, ouais, et constater à Mantes au Val-Fourré. Et donc, bah, finalement, je finis ma scolarité, j'ai mon bac, et je pars à l'université, où là, je peux porter mon voile.
Et vous écrivez, on m'avait qualifié d'intégriste, de terroriste, de honte pour les femmes alors que je n'avais que 16 ans. J'étais impétueuse, certes, un peu opiniâtre, insolente même, mais rien ne pouvait justifier que des adultes s'acharnent sur moi, refusent de donner mes copies quand j'étais absente pour un petit rhume parce que, je cite, le voile, ça sert à rien alors, ça ne protège même pas du froid. Ouais, mais entre-temps, le 11 septembre était passé par là, et le jour où les tours se sont effondrées, c'est le monde quand même qui s'est déchiré.
تفاؤلك قام توك الشد مارسيرج بدا السبرتي يقني هو اللي غتحتاج ولا بقى معفر من قز ستار انا غدوي مشي دبانا تفاؤلك قام توك الشد مارسيرج بدا السبرتي يقني هو اللي غتحتاج ولا بقى معفر من قز ستار انا غدوي مشي دبانا جو اصلا ري ممسوح بالقوم مضروب بمس فيه التوم ويلي جاك الخرح شو مالش قابل تعيش فيه من حقك تكون دمدومة تتمش بعدم الحكومة واللحم كامل هو اللي قرمو ما رفضيك الجيه وابغيه ولا كرهيه انا صحان شطح عليه من اللي حكني نهاتو ما تشدوش اللي زاتو واخا نكونو قروج منزع عليهم وماتو بيبتهم وين صغار بعينينا بجوش الدنيا عليهم لا ندير سكون لا ماما والناس بقى مضروبه بفردي خو مرعوبه من كلمه واللي جوج راه الحجره ديجا معدوده والمساحه محدوده داكشي علاش طحنا في الروج الدنيا عليهم لا ندير سكون لا ماما برام
sur France Inter, Cheb, un artiste marocain que vous nous faites découvrir ce soir.
Ouais, un petit gamin. Parce que je l'aime beaucoup, je trouve qu'il dépeint en fait une société marocaine, enfin de manière quasi sociologique, en mettant en avant en fait la réalité de cette société, très différente de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les affiches qui font la promotion du paradis de l'autre côté de la Méditerranée. Ouais. Et c'est important parce que ce chanteur en fait, il est victime de harcèlement de la part de la troll farm marocaine, parce que beaucoup de d'états autoritaires ont des troll farms, donc des armées électroniques en fait qui sont là pour taire toute parole dissidente ou toute parole critique. Et dans cette chanson, en fait, donc cette chanson sur YouTube par exemple, donc lui c'est un auteur indépendant, un artiste indépendant, et en fait cette vidéo, la vidéo de cette chanson, le clip, est restreint. Parce qu'en fait, il a subi une campagne
de cyberharcèlement, c'est ça ?
Puis de signalement. Pour violence. Et en fait, les images qu'il met en avant, c'est des images en fait de policiers marocains qui tabassent des manifestants marocains au moment du 20 février, donc du printemps arabe. Ouais. Et en fait, c'est quelqu'un de très artistique, ce qu'il fait, mais aussi très critique et très intéressant.
C'est la complexité d'un héritage dont on voudrait parfois se défaire, mais qui, qu'on le veuille ou non, nous accroche à une terre. C'est comment on se débrouille avec et comment on compose et comment on se libère que vous nous racontez dans cet essai-récit. Dévoilons-nous, on le parcourt ce soir avec vous et avec celles et ceux qui peut-être viennent de nous rejoindre. Bienvenue, vous êtes sur France Inter.
France Inter, unique en son genre.
Il y a des jours comme ça dont on se souviendra toutes et tous, on saura toutes et tous où on était et avec qui, et peut-être même ce qu'on faisait pile à ce moment-là. David Pujada sur France 2, 11 septembre 2001.
Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Vous découvrez l'image. En l'espace de 20 minutes, deux avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center, donc dans le quartier de Wall Street, en plein jour, à 9h15 heure américaine. Les tours sont en feu, vous l'avez vu. Pas de bilan pour l'instant, on parle de plusieurs morts au moins et de dizaines de blessés, puisque à ce moment de la journée, ces bureaux du quartier de Wall Street sont déjà bien sûr occupés. Attentat selon les
vous étiez où, Marianne Tiganimine, à ce moment-là, et surtout, vous êtes dit quoi ?
Ah, il me semblait que c'était un jour de semaine.
Ouais, c'était un lundi.
Je sais que j'étais au collège.
Ouais.
Et que, en fait, à un moment donné, il y a eu du bruit dans le couloir. Si mes souvenirs sont bons, oui. Et en fait, notre prof est sortie pour voir ce qui se passait. Et elle revient et elle dit, et vraiment, je vous dis la vérité, elle dit les musulmans ont attaqué les États-Unis.
Ok. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ?
Pour être très honnête avec vous, moi, comme j'ai été à Mantes, dans un entre-soi, ça n'a pas changé grand-chose parce que on était entre, enfin, on était beaucoup être de culture musulmane.
Mais et alors, donc, quand vous en sortez de cet entre-soi.
Quand j'en sors, bah, déjà, je vois mes sœurs qui vont à l'université, qui travaillent à Paris, et qui, quand elles reviennent, donc qui portent le voile, elles ont vraiment, en fait, vécu un avant-après. Donc, des agressions verbales, des crachats, des tentatives d'agression physique. Et ça, moi, je l'ai vécu plus tard aussi quand je portais le voile, mais quand il y avait un autre attentat ailleurs. Ouais. Des fois, j'étais même incapable, en fait, de situer sur un planisphère le lieu en question ou la ville. Et effectivement, je sais aussi que pour mon frère aussi, il a eu des réflexions, parce qu'en tant qu'homme arabe, entre guillemets, avec un faciès en tout cas très marqué, voilà, c'était compliqué, quoi.
Alors, l'entre-soi, vous le quittez en vous inscrivant à Nanterre, un double cursus économie-sociologie, vous faites, et là, effectivement, vous le sentez, ce regard sur vous, et vous écrivez que quand vous sortez de chez vous, vous êtes, à partir de là, dans un état d'alerte permanent. Ça veut dire que quoi ? Qu'on devient paranoïaque, que l'autre, à son tour, devient ennemi en face ?
Pas ennemi, mais en fait, porter le voile vous expose à beaucoup de réactions, à des regards très insistants. Ça peut aller du regard très insistant à la réflexion, à potentiellement en fait l'agression physique. Et beaucoup dans les transports en commun. Et en fait, les gens, enfin beaucoup de gens sont très lâches. Donc ça peut être un coup de coude comme ça. En plus, vous savez pas si il a fait exprès ou s'il a pas fait exprès. Mais bon, quand vous êtes deux et demi dans la rame, bon, on se doute bien que c'était fait exprès. Et moi, ce qui m'a beaucoup attristée aussi, c'est que j'ai aussi beaucoup développé, j'imagine parfois, des comportements un peu paranoïaques, parce qu'en fait, j'ai tellement été victime d'agressions verbales et physiques, et vraiment, hein, je peux vous les citer, je peux vous donner des exemples très concrets, qu'à un moment donné, ouais, j'étais constamment en état d'alerte, et que j'étais aussi très susceptible. Et ça, c'est des amis à moi qui m'ont fait remarquer. Même quand j'ai commencé à me dévoiler, à le porter différemment, ou parfois, ça pouvait prêter à confusion. Des fois, il y a des enseignants qui me demandaient « Ah, qu'est-ce que vous avez sur la tête ?» Déjà, vous demandez si c'est religieux ou si c'est une petite coquetterie. Je vous saurez pas. Enfin, bref. Et donc, parfois, voilà, il y avait des flous, donc on savait pas trop.
Ce genre de contexte, ces humiliations, ces regards, on pourrait faire de vous renfermer plus encore sur vous, d'être dans le lien à l'autre devient plus compliqué.
Oui, après, heureusement que j'avais à la base un énorme capital. Voilà, enfin, je suis quelqu'un de plutôt sociable. Ouais. Et je vais beaucoup vers les autres. Mais en fait, les premières victimes d'islamophobie sont les femmes qui portent le voile. Parce que bah, c'est plus facile déjà de s'attaquer à une femme. Et en plus, voilà, le voile, en fait, vient comment dire exprimer clairement votre appartenance. Il y a pas mal d'études, notamment sur les convertis à l'islam, qui montrent que des personnes blanches qui dès qu'elles portent un voile en fait sont plus considérées comme blanches. Et donc voilà, ça pose beaucoup de questions sur la manière dont on perçoit l'autre. Puis voilà, donc beaucoup de surréactions, mais parce que en amont en fait il y a eu beaucoup d'agressions ou de regards insistants. Ouais. Et quand j'ai retiré le voile, à un moment donné, j'avais ce réflexe de suivre dès que je voyais une femme qui portait le voile sur le quai. Ouais. Je la suivais en fait dans le wagon en me disant ouais, si quelqu'un lui dit quelque chose, ou observer aussi les autres, parce qu'à un moment donné, bon, je suis encore typée, hein, je suis pas à l'abri d'une discrimination. D'ailleurs, pas très longtemps, avec une propriétaire qui m'a dit estimez-vous heureuse. Vous êtes une étrangère, et j'ai accepté de vous louer l'appartement, enfin bref. Et donc j'arrive dans la... Et plusieurs fois j'ai pu constater. Et je me disais, bon, bah, en fait, j'étais pas si folle que ça. Regarder les regards insistants, assister en fait aussi à des scènes pas sympas, quoi, pour la personne qui portait le hijab.
Le temps passe, les raccourcis ont toujours la belle vie, hein. Saut dans le temps, on est en 2020, une jeune femme fait parler d'elle sur Instagram, elle s'appelle Imane, elle est étudiante et elle propose des recettes de cuisine faisables dans 7 mètres carrés à peu près, avec 7 euros ou presque.
Je m'appelle Imane, j'ai 21 ans, je fais des études de communication et de marketing, là je suis en M2, et j'aime la cuisine notamment, ce qui fait que j'ai créé Recettes Échelon 7. Pourquoi j'ai choisi le nom Recettes Échelon 7 ? Échelon 7, c'est en référence à l'échelon de la bourse, c'est le plus élevé sur le barème de l'aide sociale. Ça équivaut à peu près un peu plus de 500 euros par mois. C'est attribué aux personnes qui ont très peu de revenus, qui viennent de familles très modestes. Et c'est l'échelon que j'avais quand j'étais boursière. Alors, pour comprendre pourquoi j'ai choisi ce nom, il faut comprendre un peu le concept. C'est un compte Instagram de cuisine étudiante, mais vraiment étudiante au sens propre du terme, pour ceux qui ont le nécessaire, enfin le kit de survie, une poêle, une casserole et deux plaques électriques. Je demande pas énormément de moyens. Si tu n'as pas un mixeur, tu peux faire mes recettes. Si t'as pas de four, tu peux faire mes recettes. Ça rajouterait une contrainte économique que je veux pas donner. Et donc c'est pour ça que je fais vraiment des recettes avec la base, quoi.
Bah ouais, la base, quoi. Donc c'est tout gentillet, c'est tout mignon, ça marche très très bien sur les réseaux sociaux. Et puis un jour, elle décide de se mettre à porter le voile. Et alors là, le ton change et en commentaire, sous ses vidéos, il y a régulièrement la mention au 11 septembre qui est faite. Donc l'association est très claire. Imène, comme toutes les autres, se retrouve réduite à son voile. Qu'est-ce qu'on voit quand on voit une femme voilée? Il y a le terrorisme, ça on en parlait. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on imagine de ce qu'est une femme voilée? Les stéréotypes qui collent à la peau d'une femme voilée, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vous a dit?
Beaucoup de choses. Quel homme est derrière cette initiative?
C'est ça, c'est-à-dire que ça ne peut pas être un choix.
Non. Quel homme
Vous êtes forcément soumise.
Ouais, est-ce que vous dormez avec? Bon, après, il y a aussi des questions qui sont un peu stupides, mais bon, à la limite, c'est un peu inoffensif, ouais. Ça peut être chiant à la longue. Mais c'est très intéressant d'avoir passé le cas d'Imane, donc en fait, qu'il le portait déjà, et qui a fini par le retirer. Mmh. Et qui, comme Ménel, en fait, a été celles et ceux qui l'avaient défendue contre donc toutes les insultes islamophobes, racistes, et c'était notamment au jour anniversaire du 11 septembre. Donc celles et ceux qui l'avaient défendue ont fini par dire ah bah voilà, elle a fini par céder, elle leur donne ce qu'ils veulent, etc. Et en fait, le problème, c'est que malheureusement, quand vous portez le voile, vous êtes victime de deux camps. Opposés, mais qui sont en fait qui ont en commun le fait d'être des fétichistes du tissu. Et le problème, c'est que le voile est devenu un catalyseur de lutte antiraciste. Et c'est très problématique parce que effectivement, il y a un tel discours politique et aussi médiatique islamophobe, raciste, on essaie de s'accrocher à ce qu'on peut et on essaie de défendre la cause. Mais le problème, c'est quelle cause déjà? Et les premières personnes en fait à morfler de ça, c'est les femmes qui portent le voile. Et dès qu'elles décident de le questionner, de le retirer ou de le porter même différemment, et beaucoup de femmes ont vécu ça. Dès qu'elles ont une petite exposition sur les réseaux sociaux, c'est foutu. Et ben en fait, elles se retrouvent là à être jugées par des gens qui vraiment deux heures avant étaient là à dire oui, protégeons les femmes voilées, etc., etc.
Mais ça, c'est je dirais presque vieux comme le monde. C'est-à-dire quoi qu'il arrive, c'est le contrôle du corps des femmes et qui prend. Alors là, une ampleur particulière, mais on en est quand même toujours là. Il y a pas que les commentaires médiatiques, il y a aussi des décisions politiques. Je pense à des décisions d'exclusion, l'exclusion de cette femme qui accompagne son enfant en sortie scolaire au conseil général, l'exclusion de certaines nageuses en burkini dans les piscines. Vous, ce que vous dites, c'est attention à ce que vous faites, parce que moi, le sport, c'est ce qui m'a ouvert, c'est ce qui a commencé la déconstruction finalement de mes croyances. Comment et pourquoi?
Généralement, enfin, vous posez la question à une femme qui porte le voile, voilà, pourquoi tu le portes? La question qui revient beaucoup, c'est par pudeur, obligation religieuse, etc. Et vraiment, très honnêtement, j'ai très 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 rarement rencontré des personnes qui me disaient c'est pour un mec ou autre. Mais ça existe, hein, c'est pas. Mais combien? Enfin, la question à chaque fois, moi, que je pose, c'est combien en fait? Est-ce que tu peux quantifier le phénomène? Et en fait, moi, je me suis aperçue que cette question du rapport au corps, cette question de la, parce que la pudeur, ça renvoie à quoi en fait? Ça renvoie en fait à se cacher, à développer en fait un rapport à son corps qui peut devenir problématique. Et donc moi, en fait, en faisant du sport, je me suis rendu compte que j'avais un corps comme tout le monde en fait, et que je, à un moment donné, en fait, oui, je le cachais. Parce que même quand on met un slim avec une chemise, même quand vous vous habillez en tant que femme voilée, en fait, il y a des catégories, quoi. On vous dit, ah, ça, c'est une voilée qui porte un slim. Ça, c'est une voilée qui porte une djellaba. Enfin, voilà. Et en plus, même quand vous portez un slim, on peut vous nier le fait que vous soyez une femme voilée. Eh ben, en fait, on recouvre tout son corps. Et le fait de faire du sport, moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Mais sur un truc vraiment très bête, quoi. J'ai un corps, tout le monde a un corps. Pourquoi est-ce que moi, je devrais le couvrir plus qu'un autre? Plus que déjà un homme. Et plus que tous les autres. Et le fait de voir des corps en mouvement dans des salles de sport. Donc j'ai commencé avec la boxe. En plus j'ai vraiment commencé avec des sports de bourrin, quoi. Après j'ai fait du jiu-jitsu brésilien. C'est du corps à corps, mais là c'était vraiment quand j'étais sûre que j'allais le retirer, parce que c'est assez particulier. Ouais. Et quand j'ai appris à nager aussi. Et je me suis dit, mais en fait, à la piscine, mais personne te calcule, quoi. En fait, on est là pour faire du sport. Et donc, voilà, ça m'a vraiment... Enfin, ça a été comme une sorte de révélation.
Il y a le sport, et puis parallèlement, il y a des études. Vous parlez de réenchantement par les sciences. C'est-à-dire que vos études vous permettent petit à petit de déconstruire vos croyances. Et puis, vous écrivez qu'en 5 minutes, vous décidez que vous n'y croyez plus. Que c'est plus votre truc et que vous allez l'enlever. Mais derrière, vous mettez 5 ans à le faire vraiment. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait hésiter ?
Je l'ai porté depuis mes 10 ans. Parce que vraiment, en fait, quand vous avez l'habitude d'avoir la tête couverte, sortir sans couvre-chef, c'est vraiment, c'est bizarre. Vous avez l'impression de sortir nu. Enfin, moi, en tout cas, c'était mon impression. Et puis, en fait, il y a beaucoup de choses à. Déjà, faut admettre, en fait, qu'on sait. Moi, en tout cas, dans mon cas, c'est que je me suis dit, mais est-ce que je me suis pas trompée durant toutes ces années ? Et j'ai discuté avec beaucoup de femmes qui me disent, voilà, j'aimerais bien le retirer, mais je me dis après tout ce temps. Et donc, dans le livre, je parle d'une notion qu'on appelle les couvées récupérables, en fait, qui a été développée par Daniel Kahneman, qui est un psychologue prix Nobel d'économie, et qui est, en fait, quand on va au cinéma, qu'on regarde un film qui est pourri, et en fait, on reste jusqu'au bout, jusqu'à la fin du film, parce qu'on se dit, on a payé la place. Pareil pour, on attend un bus, il a 15 minutes de retard, 30 minutes de retard, mais on lâche pas l'affaire. Et bien, la même chose, on est avec un couple, en couple avec quelqu'un, en fait, qu'on peut plus supporter, mais on se dit, ça fait déjà 5 ans qu'on est ensemble, on va encore continuer. Et en fait, c'est un coup faut pas réfléchir comme ça, c'est pas rationnel de réfléchir comme ça.
Il y a un coup, vous dites, économique, psychologique, affectif.
Et déjà, il y a aussi un coût, en fait, à reconnaître que, peut-être que, on a endossé une pratique et un objet et un habit qui, en fait, nous correspondait pas. Et en fait, faut reconnaître que, ça nous correspond plus. Et c'est très peu valorisé, en fait, de reconnaître que, telle croyance, telle pratique ne nous correspond plus. Et c'est d'ailleurs, en fait, l'objet de ce livre, c'est un exercice intellectuel pour pouvoir abandonner des croyances, abandonner des pratiques. Et en fait, le voile, c'est un exercice, enfin, un exemple parmi.
Mais que chacune fasse son chemin.
Exactement, exactement. Et moi, en fait, c'est vraiment à partir des centaines de messages que j'ai reçus sur Internet et particulièrement sur LinkedIn, et c'est pas anodin parce
que
LinkedIn,
réseau professionnel,
voilà. Et en fait, des femmes qui prenaient le prétexte du travail, des études, pour me dire, en fait, très timidement, je sais pas quoi faire. Je crois que ça me correspond plus ou j'ai envie de le porter différemment. Et en fait, quand je dis pas de problème, et quand je montrais en fait qu'il y avait rien de mal en fait à questionner le voile, et là en fait j'avais des histoires et des kilomètres d'histoires et vraiment des femmes qui étaient parfois dans des détresses psychologiques parce qu'elles devaient abandonner quelque chose qui entre guillemets, les représenter, en tout cas dans les yeux de toutes celles et tous ceux qui les entourent.
Vous y êtes allé graduellement, un hijab plus simple, d'abord plus coloré, puis des foulards carrés noués devant, et puis un bandeau, quelques tentatives avortées de sortir tête nue. Et puis vous sautez le pas grâce à 2 voyages, à Singapour et aux États-Unis. Peut-être parce qu'il faut être loin de chez soi pour oser être soi.
Ok.
I didn't change my number. I only changed who I replied to. Laura said I should be nicer, but not to you. I love how you were mad at me text. Should've guessed that you would think I was upset. You're obsessed. Don't take it out on me. I'm out of sympathy for you. Maybe you should leave before I get too mean. I didn't change my number. I only changed who I believe in. You were easy on the eyes, eyes, eyes. But looks can be deceiving. I gotta work, I go to work. You don't deserve to feel so hurt. You got a lot of fucking nerve. I don't deserve. So don't take it out on me. I'm out of sympathy for you. Maybe you should leave before I get too mean. And take it out on you and your best friend too. I should have left when Drew said you were bad news.
Billie Eilish, I didn't change my number, et we didn't change our programmateur musical, qui reste évidemment Djoubaka. Comme tous les vendredis, vous retrouverez toute sa playlist à la page d'Unique en son genre sur franceinter.fr. À la technique ce soir, Clément Berman, à la réalisation, Marianne Crimbaud, chargée de programme, Ophélie Vivier. Et le Labo du genre, eh ben c'est maintenant.
Unique en son genre, Julia Foyce.
Les frontières du genre se floutent depuis quelques années maintenant. Désormais, il s'interroge, il se questionne, il se nourrit de vous, de nous, en toute singularité, en toute subjectivité. Alors dites-nous, Mariam Tiganimine, quel serait l'objet qui a fait de vous la femme que vous êtes aujourd'hui ?
Alors je dirais, c'est peut-être un peu cliché, mais mon ordinateur.
C'est vrai ?
Mais en fait, c'est pas tant l'ordinateur.
Je le trouve très joli. Je voudrais pas dire qu'on a passé 3 minutes à en parler hors antenne. J'adore cet ordinateur dont je ne donnerai évidemment pas la marque.
Mais en fait, c'est pas tant l'outil. C'est plutôt en fait Internet. Parce que j'ai commencé à bloguer en fait en 2007.
Ouais.
Et ça a été pour moi une porte ouverte en fait sur le monde. Mais vraiment. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, tout ce qui concerne Internet, les réseaux sociaux, ça m'anime, ça m'obsède. C'est même, en fait, parmi mes objets de recherche, en fait, dans le cadre de mon travail doctoral. Et ça a été, en fait, le meilleur comme le pire, hein, évidemment. Mais voilà, YouTube, par exemple, moi, c'est une plateforme que je squatte. Et c'est assez fascinant de constater qu'on a des contenus... à la fois très très problématique, très violent, raciste, antisémite, platiste, complotiste, etc. Et de l'autre côté, en fait, dans le YouTube arabophone que je fréquente beaucoup, on a des contenus d'émancipation, on utilise la vulgarisation scientifique pour se séculariser.
Et puis on le sait que le printemps arabe s'est fait là aussi, mais comme MeToo s'est fait là aussi. C'est-à-dire que depuis le début de cette émission, j'ai l'impression qu'on ne parle que d'une chose finalement, c'est l'enfermement, l'entre-soi ou l'ouverture sur le monde. Qui est valable à peu près pour tout le monde d'ailleurs. Si on parle de votre féminin à vous, quelque chose m'a interpellée dans votre livre. Vous dites « Voilée, je n'étais pas une femme ». Mais alors vous étiez quoi ?
J'étais un voile sur pattes, a priori.
Enfin, moi, c'est-à-dire que ça chosifie ou ça désexualise ?
Ben, les deux. Enfin, après, tout dépend de qui est en face de vous. Donc, par exemple, dans le train, avec un... personne qui clairement en fait est pas du tout ouverte aux autres et clairement raciste, ben en fait il va vous considérer comme une chose quoi. Il sera hyper violent pour lui, face à lui il a pas une femme, il a un voile sur pattes. Et aussi moi à un moment j'avais été au salon du Bourget, vous savez le salon en fait où on a des expositions, des livres, des vêtements pour les personnes de culture musulmane, etc. Ouais. Des conférences. Et ça a été des expériences hyper traumatisantes parce que en fait on vous sexualise parce que en fait vous portez le voile mais en fait vous représentez la bonne musulmane et potentiellement en fait la bonne musulmane à épouser et donc voilà c'est et
donc là dans ce contexte là ça vous sexualise
ouais, c'est pour ça que tout dépend en fait du contexte quoi ouais.
Vous écrivez que du coup le corollaire c'est j'ai retiré mon voile et le sexisme m'a rattrapé, on est en plein MeToo et là vous vous rendez compte de ce que c'est que le regard porté sur une femme qui du coup n'est pas cachée par son voile. Je voudrais terminer cette émission en lisant un extrait d'une tribune que vous avez publiée dans Chic Magazine. Vous écrivez « J'ai vécu le sexisme ordinaire à ce moment-là. J'ai sûrement dû en être victime auparavant, mais il a toujours été noyé dans le racisme ou le mépris de classe. Pour la première fois, on m'a enfin considérée comme une femme. Certes, j'aurais pu me passer de cette manière de faire pour reconnaître la caractéristique qu'on peut le moins me contester, mais j'avoue avoir été frappée par ce contraste avec ma vie d'avant. Après cet incident, j'ai compris que je resterais toujours quelque chose d'autre, pour certaines personnes, une ex-voilée, une banlieusarde, une étrangère, une femme, une autre qui a, depuis, appris à ne plus perdre de temps avec des individus qui, quoi qu'elle fasse, ne cesseront de lui rappeler qu'elle n'est pas comme eux. Merci infiniment, Mariam Tiganimine.
Merci à vous.
Votre essai « Dévoilons-nous » est publié aux éditions de l'Olivier. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.